بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer, le mutawalli demande du côté des dames de la salle numéro 15, est-ce que le son est correct, de faire remonter l'information au cas où s'il y a un petit souci, ben on peut réajuster le son. Donc mes chers frères, mes chères sœurs en islam, nous abordons ce matin le dernier thème de ce séminaire de 3 jours. Alors, comme Moufti Shakir vous a expliqué, le thème de cette intervention, Inch'Allah, tournera autour des loisirs, des moments de détente quand on est musulman. Alors, on pourrait très bien axer ce discours sur 3 points. On aurait pu dire que, premièrement, on peut s'amuser dans l'islam, mais de manière licite uniquement. Deuxième point, la musique, les sorties en boîte de nuit sont formellement haram, bande de pécheurs. Et troisième point, voici les châtiments terribles qui vous attendent. Vos peaux grilleront, vos yeux sortiront de leurs orbites, votre sang va bouillir de votre corps, bref, vous allez souffrir. Voilà. Si on... Et le sujet serait vite plié, hein, en 10 minutes, ce serait terminé. Mais également, vous aussi, vous aurez plié les bagages en 10 minutes, pareil. Je suis persuadé. Et j'entends déjà certains dire de le couloir que toute affaire n'est pas bon, ben moulissable, là, il ne change pas. Ou alors certains diraient, pendant que l'île est, pourquoi il ne dit pas nous garder un grand barbe comme l'île? Donc c'est pour ça que le ton du discours en 2008 n'est plus le même qu'il y a 50 ou 60 ans, même si l'objectif est le même. Également l'auditoire, c'est-à-dire les personnes qui écoutent, ben, cet auditoire n'est plus résigné à accepter tout ce qu'on va dire comme un wahi, comme une révélation. Pour reprendre l'expression de Kant, vous connaissez tous Kant, philosophe qui n'a malheureusement jamais eu de sélection en électrique de France, mais qui quand même est quelqu'un de connu. Quand il parlait de directeur de conscience, on a besoin de gens qui nous disent des choses, tout ce qu'il va dire on va écouter, tout ce qu'il va dire que c'est pas bon, on va s'en abstenir. De nos jours, les jeunes ne sont plus comme ça. Il faut les persuader, il faut les expliquer. Et ce que je dis n'est pas forcément révélation. C'est à vous de juger, est-ce que c'est correct ou non. Alors, vous êtes des jeunes, vous êtes éduqué, vous êtes instruit, vous êtes mature. Et à votre âge, j'estime, et je parle au nom du corps des ulama du CFCI, du Centre islamique, nous estimons que vous méritiez un tout autre traitement que d'être en permanence sermonné, apostrophé. Fais pas ça les harams, fais ça les wajibs obligatoires, arrête de désobéir à Allah. Je pense qu'on peut s'adresser à vous avec une autre catégorie de discours. Je suis persuadé que vous êtes capable de prendre des décisions. Vous êtes assez mature pour faire des choix. Et des choix, vous en aurez à faire durant toute votre vie. Et surtout, j'estime que vous êtes assez responsable pour juger par vous-même, comme je viens de dire, ce qui est bien pour vous de ce qui est moins bien. Et cette maturité qui est la vôtre, nous le respectons. Cette liberté de conscience qui est la vôtre, nous le respectons. Sachez aussi, mes chers frères et mes chères sœurs en islam, et là aussi je parle au nom de mes collègues, que l'attention que les jeunes ulama, sans vouloir dire que les anciens ne le font pas, mais particulièrement les jeunes ulama de l'île de la Réunion, l'attention que nous vous portons, ben, c'est considérable. Les efforts que nous faisons régulièrement, ou alors que nous essayons de faire pour vous apporter notre soutien, ces efforts, je vous assure, je vous donne ma parole, c'est permanent. Et ce séminaire de 3 jours, cela concrétise le fikr, le souci que nous avons pour vous. Vous êtes, et croyez-moi, vous êtes au centre de la plupart de nos réunions. Même si on se réunit pour le halal, si on se réunit pour le pèlerinage, si on se réunit pour d'autres sujets, mais à chaque fois on retombe sur le problème des jeunes, la question que chacun se pose, nous, en tant que jeunes alim, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette génération qui vient juste avant nous, pardon.
La limite d'âge de ce séminaire était de 25 ans. Et je vous rappelle que la différence d'âge qu'il y a entre les plus âgés et les plus jeunes parmi nous, c'est de 4 ans ou 5 ans. C'est-à-dire que c'est des générations qui se sont côtoyées. Nous avons des points communs. Pour les Dionysiens, nous avons fréquenté le collège Juif de Dieu comme vous. Nous avons été au lycée Le Comte de Lille comme vous. Pour les Alim Saint-Pierrois, ils ont eu les mêmes établissements scolaires que vous. Et d'une manière générale, nous avons une même vision du monde moderne. Il y a peut-être des choses qui échappent aux anciennes générations, mais entre ceux qui ont 20, 21, 22 ans, et les ulama qui ont 29, 30, jusqu'à 35 ans, ben le courant passe mieux. Et là, je pense que vous êtes d'accord. Et si nous nous sommes adressés à vous, jeunes de Saint-Pierre, de Saint-Denis, de Saint-Louis, du Port, Tampon, Saint-Joseph, Saint-Paul, et j'en oublie peut-être, si nous nous sommes adressés à vous durant ces trois jours, je vous assure, ce n'est pas pour vous imposer une hiérarchie. Ce n'est pas pour vous dire que nous les moulissables, et Zot écoute. Ce n'est pas le Moulana qui parle et les élèves écoutent. Et puis 10 minutes, il m'a dit, on m'en avait de l'autre, ce n'est pas possible. Subhanallah. Le Moulana soif et va partir très de loin ailleurs. Si nous nous sommes adressés à vous, comme je vous dis, ce n'est pas pour vous imposer une... Jazakallah. Ce n'est pas pour vous imposer une hiérarchie. C'est fini cette époque où Moulissa Bikoz, Zélavi écoute. Le principe reste le même, mais les méthodes utilisées ne sont plus les mêmes. C'est fini cette époque où le Moulissa ordonne « fais ça » et on est obligé de faire sous la menace. Ou « fais pas ça » et on est obligé de se cacher quand on fait un péché pour pas que Moulissa ne voit. Vous savez, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Comme on a dit, vous êtes des adolescents, vous êtes matures, vous êtes assez conscients pour être décidés par vous-même de votre devenir. Et nous ne décidons rien à vos places, Wallah. Nous sommes là uniquement pour vous apporter notre soutien. Nous sommes là pour vous montrer que vous pouvez compter sur nous. Nous vivons à une époque où personne ne peut compter sur son prochain. Parfois, même dans la famille, il y a tellement de dissensions qu'on ne peut même plus compter sur son frère, sur son cousin, sur un tonton pour nous aider. Ne parlons plus des voisins, ne parlons plus des amis. Il y a bien les assistants sociaux ou autre chose, mais c'est des gens qui sont payés pour ça, ils sont salariés pour ça. Alors que le alim, comme c'est expliqué hier, on a certes un salaire maigre, très maigre, digne des pays du tiers-monde, mais notre objectif, c'est l'enseignement, l'imamat, mais c'est d'apporter notre soutien à cette génération clé de la Ummah islamia. Et je dirais comme la dalle du Liverpool, celui qui va gagner la Ligue des Champions 2008, « You'll never walk alone ». Ça, assurez-vous que nous sommes là. Vous comptez énormément pour nous. Mais avant même de vous affirmer cet attachement pour la jeunesse, ces sentiments humains, sachez également, avant tout, que vous comptez énormément pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Mufti Shakil l'a dit ce matin et encore, et on l'a entendu, on l'a encore entendu. Maintenant, j'espère que c'était la dernière fois. Comme Mouali Shaukat a dit, Mouali Shaukat qui ne sait toujours pas quel saint se vouer, qu'elle retourne sur Saint-Paul. Comme Mouali Bagat a dit dans le gymnase, Allah subhanahu wa ta'ala accorde une attention particulière à cette jeunesse. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la fleur de l'âge. Vous traversez en ce moment les plus beaux moments de votre vie. Jamais plus vous n'aurez autant de force physique. Jamais plus vous ne serez aussi motivé pour croquer la vie à pleines dents. Quand vous serez âgé, les dents, vous n'en aurez même pas. Et avec un dentier, je vous assure qu'on ne croque pas la vie de la même manière. C'est maintenant que vous pouvez tout faire. Les jeunes peuvent changer le monde. Vous avez une force, une énergie en vous, inépuisable, bi-idhnillah. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala attend quelque chose de spécifique de votre part. Et ce que vous allez faire en termes de bonnes actions dans ce contexte de dépravation, ce contexte de fitna qui n'a jamais, jamais, jamais été atteint à une époque de l'humanité. Je me demande si à l'époque de Qawm Lut, les femmes s'habillaient comme les femmes de la Réunion dans la rue Maréchal Leclerc le samedi après-midi ou dans la rue des Mauvais Enfants le samedi après-midi. Parce qu'il faut changer ce nom avec ce qui se passe ici. Taïb. Jamais la Umma n'a connu un tel degré de fitna. Le haram vient à vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Il vient, il se télécharge, on le reçoit par mail, par SMS, par MMS, par tout ce que vous voulez. Le haram vient. C'est à vous de le rejeter. Alors qu'à une époque, pour avoir le haram, il fallait trouver les bons plans. Maintenant, le bon plan, les plans vous trouvent. Parce que tous les plans sont bons maintenant, nasallahu alayhi wa sallam. Alors, vos ibadats à vous, jeunes garçons et jeunes filles, dans cette époque de fitna, de dépravation, cela dépasse de loin, de très loin, mais de très très loin, vous n'imaginez même pas comment votre ibadat dépasse les actes d'adoration de nos anciens, de nos seniors, de nos tchatchas, de nos bakoko. Ça dépasse tout ça. J'ai demandé aux jeunes de Moufia comment on dit vieil homme. Ils ont dit bakoko. Mais je ne les fais pas confiance. S'ils sont capables pour aller jusqu'à Stade Glacier, sauter portail, ce que personne n'a fait. La race de Moufia, les gars, respect. S'ils étaient capables de sauter portail pour aller manger sorbet, ils étaient capables de me dire une fausse traduction, un gros mot, et que j'aurais dit bakoko, ça veut dire je ne sais quoi. Donc, alhamdulillah, ils ne m'ont pas trahi là-dessus. Donc, pour revenir, si je vous dis, à degré de ibadat égal, le ibadat du jeune dépasse des années-lumière le ibadat de la personne qui est âgée, avec tout le respect que nous avons pour nos anciens. Alors, pouvez-vous demander, mais pourquoi? Depuis 3 jours, il rabat chez nous, ben jeune, vous êtes les meilleurs, vous êtes comme ci, comme ça. Ben, écoutez, est-ce que vous vous êtes mis d'accord pour faire passer le mot, pour nous attirer par ces discours? Non! Je veux vous dire pourquoi on vous donne autant d'importance. Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de vous réunir pour ces 3 jours? Qu'est-ce qui fait que notre attention est aussi concentré sur vous dans nos mashallah, comme j'ai dit tout à l'heure? Il y a 3 raisons. Premièrement, vous êtes l'avenir de l'islam. Les anciens vont quitter ce dunya un jour. Mais vous, vous êtes les parents de demain. Vous êtes ceux et celles qui donneront, inshallah, une éducation correcte à vos enfants. Pour que vos enfants eux-mêmes, un jour, soient de dignes parents musulmans qui eux-mêmes transmettront la hidayat aux autres générations. La hidayat, c'est une chaîne qui remonte à An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Abu Bakr as-Siddiq, le premier da'i, le premier khatib de l'islam, et qui a propagé l'islam aux sahaba. Et les sahaba, ils ont propagé les générations en générations, jusqu'à ce que l'islam arrive à Sindh, cette région à l'époque qui regroupait l'Inde, le Cachemire et le Pakistan. Pour ceux qui sont d'origine indienne, et pour ceux, pour nos bakoko, et ceux qui sont d'origine des Comores et des îles Mayotte, ce sahaba qui ont enterré aux îles Comores, ce sahaba a amené la hidayat dans votre pays d'origine, et la hidayat c'est une chaîne qui se transmet de maillon en maillon. Chaque maillon peut faire 50 à 60 ans, et vous êtes le prochain maillon. Nous étions un maillon, et nous sommes en train de vous transmettre le amana de l'islam, de l'iman, de hidayah. Vous êtes le prochain maillon. Et si ce maillon est faible, si ce maillon est rouillé, si ce maillon cède, ce sont des générations de réunionnais, de jeunes qui n'auront pas la guidée. C'est pour ça que vous avez un rôle clé dans la transmission de la hidayah pour les autres générations. Également, le paradis, wallahi al-azim, vous est promis. Le paradis vous est promis, et les promesses d'Allah pour les shabab, pour les jeunes, dépassent les promesses d'Allah pour les anciens. Mais à condition que vous vivez cette jeunesse comme Allah vous l'a demandé. Ce paradis vous est promis, et nous en tant qu'alim, nous avons tellement peur qu'il vous arrive quelque chose dans ce long chemin épineux qui, inshallah, vous amènera vers le paradis. On a peur que vous flanchissiez. On a peur que vous faites un pas en arrière, que vous trébuchiez. Et seul, on ne peut pas s'en sortir. Personne n'a la capacité de s'en sortir seul à notre époque. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour vous encadrer. Et dans cette tranche d'âge de 15 à 25 ans, vous jouissiez de quelque chose de nouveau. C'est la liberté. Et mes jeunes frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau que d'être libre. Libre de vos pensées, libre de la manière d'agir, libre de votre travail, dans votre possibilité de décider de ce que vous allez faire. Un jour, si vous pouvez travailler tout en étant autonome, recherchez la liberté. C'est un cadeau exceptionnel que d'être un homme libre. Je ne suis pas en train de faire le remake de 300, hein, mais la liberté, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et cette liberté, quand vous êtes adolescent, vous apprenez à le découvrir de jour en jour. Vous êtes libre de décider de votre orientation, tant sur le plan professionnel, sentimental, que religieux. Mais mes chers frères et mes chères sœurs, la liberté, c'est souvent un vaste champ dans lequel parfois on s'éloigne ou parfois on s'égare. Surtout quand on découvre de nouvelles facettes de la vie, comme c'est le cas en 15 et 25 ans, comme les relations amoureuses. J'ai des élèves dans la salle, jusqu'à minuit, je sais qu'ils téléphonent à la tantine. Je sais très bien qu'ils envoient des SMS à leur petite copine. Je ne peux pas les en empêcher. Je dis une fois, mais après ce sont des hommes qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est entre eux et Allah. Et quand je me lève dans le tahajjud, je fais doigt pour vous, Allah. Vous découvrez également en ce moment les sorties entre amis. C'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas avant. Mais dans cette quête de liberté parfois, il arrive que vous trouvez quelqu'un, un ancien, très ancien, trop ancien même, avec une expérience perverse. Cette personne est là pour rechercher votre perdition. Cette personne est là pour abuser de votre innocence, de votre désir d'émancipation, de découvrir les nouvelles choses, de croquer la vie à pleines dents. Cet ennemi, c'est Shaitan. Il a détourné du droit chemin des dizaines, voire des centaines de jeunes comme vous. Et il aimerait que vous aussi, vous soyez détournés du droit chemin. Il sait que vous êtes jeunes, assez jeunes pour tout aimer, mais en même temps tellement innocent aux yeux d'Allah, qu'il se peut parfois que vous subissiez à vos tentations. Mais Shaitan, avec son expérience, il est là pour vous tromper. Cette étape est cruciale pour vous et pour Shaitan, car Shaitan sait pertinemment que s'il n'a pas pu vous avoir entre 15 et 25 ans, c'est fini pour lui. Si entre 15 et 25 ans, il ne vous a pas amené vers l'alcool, vers le zina, vers les boîtes de nuit, vers la drogue, vers tout ce qui est haram, passez le cap de la jeunesse de 25-27 ans, Shaitan, il sait, par son expérience de milliers d'années, que c'est fini. Il ne pourra jamais plus vous avoir. Et vous, si vous avez résisté à ça, ou si vous l'avez fait et que vous avez décidé de retourner vers Allah et que jamais plus vous ne recommencez les mêmes erreurs, c'est fini. Vous êtes presque sauvé de Shaitan. Quand l'âge propice au péché sera passé, l'étape est cruciale pour vous comme pour Shaitan. Vous êtes dans la phase de poule. Si dans cette phase de poule, vous avez 3 matchs qui se jouent, 3 phases de 5 ans, si pendant les 15 années de jeunesse, vous avez remporté ces 3 victoires, c'est bien parti. Mais l'exemple est plus concret de l'autre sens. Si Shaitan a perdu les 3 matchs de poule, comme Marseille a perdu déjà 3 matchs, Inch'Allah, ils vont gagner contre PSV Eindhoven. Mais si on a perdu les 3 matchs de poule ou les 4 matchs de poule, c'est fini. Il n'y a plus de chance d'aller en quart. Il n'y a plus de chance de retrouver 93. C'est fini. Pareil pour Shaitan. S'il vous a pas eu jusqu'à 25 ans, il sait que les carottes sont cuites, que c'est une génération qui est passée. Il va essayer d'avoir vos enfants par la suite, mais pour vous, c'est terminé. Et nous, ulama, on est là pour ça, pour vous aider à passer ce cap. C'est pour ça qu'on vous a réunis pendant ces 3 jours. Mes chers frères et sœurs, vous savez que l'islam est la religion du juste milieu. Vous avez entendu ce verset qu'Allah t'a dit au Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Vous êtes une communauté du juste milieu. L'islam est une religion modérée, adaptée à tous les contextes. Si Allah a décidé que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, répété sallallahu alayhi wa sallam, soit le dernier des prophètes, que le Coran soit le dernier des livres, qui restera sur une période 10 à 20 fois supérieure à n'importe quelle période où les autres prophètes sont venus, que jusqu'au Qiyamah il n'y aura pas un nouveau prophète ni un nouveau livre, et que jusqu'au Qiyamah ce seront les mêmes règlements qui devront être respectés. Si Allah en a décidé ainsi, et Allah n'opprime pas les gens, et Allah ne vous demandera jamais quelque chose d'inaccessible, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah il sait très bien que ce dîn, cette religion, peut être pratiquée à toutes les époques, que ce soit au 5e siècle, au 20e, jusqu'au 30e siècle, jusqu'au Qiyamah, dans n'importe quel pays, que vous habitiez en Europe, en Occident, en Orient, dans un pays sous-développé, développé, surdéveloppé, un futur pays sous-développé, quel que soit l'endroit après la récession, quel que soit l'endroit où vous habitez, ce dîn peut être pratiqué. C'est pour ça que c'est une religion modérée. Maintenant, la question que je vous pose, ça veut dire quoi que cette religion elle est modérée? Qu'est-ce que ça veut dire que dans cette religion il y a des facilités? Est-ce que ça veut dire uniquement que dans les ibadat il y a des choses faciles, il y a des ouvertures? Par exemple, quand vous êtes en voyage, vous pouvez faire 2 rakat au lieu de 4. Quand vous n'avez pas d'eau, vous faites tayammum au lieu du wuzu. C'est clair. Quand vous êtes en voyage, vous ne faites pas carême, c'est pas obligé. Quand vous êtes malade, quand vous êtes enceinte, pour les dames bien sûr, hein, quand vous allaitez, certains, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Il y a des facilités, ce qu'on appelle les rukhsa. Mais la modération, la facilité ne réside pas que là-dedans. Il y a autre chose aussi, dans la gestion du temps, dans la gestion des centres d'intérêt également, il y a des facilités. Ainsi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les ibadats. Il y a un temps pour le travail, ce que Moli Bagat a développé avec Richard Dingan et Moli Ismaël. Un temps pour le travail, pour la boukas bil halal, travailler pour obtenir votre rosi, travailler plus pour gagner plus, travailler pas pour gagner quand même. Et il y a un temps pour se décompresser, pour se faire plaisir. Take it easy, man. Se faire plaisir. Et notre Prophète sallam avait dit en ce sens à un sahaba qui, je dis pas qu'il en faisait trop, mais il donnait beaucoup d'importance à l'acte religieux en négligeant sa personne et sa famille. Enfin, a dit, un sahaba a dit, en ce sens, wa inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li zawjika alayka haqqa, wa inna li nafsika alayka haqqa, et ensuite, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqa. Allah a un droit sur toi. Ta femme a un droit sur toi. Vous savez ça. Ton nafs a un droit sur toi. Ton corps, il a un droit sur toi également. Donne à chacun son droit. Vous voyez? Et on irait même plus loin. La question que je vous pose, si vous voyez une personne qui, le matin quand la masjid s'ouvre à 4h, 4h30, je ne sais pas quelle heure on ouvre ici, elle est au premier rang. Elle ne sort plus jusqu'à Isha. Travaille pas. Elle ne ressort, elle reste dans la masjid, salat et jamaat, ibadat, Quran, dhikrullah. Rosa, c'est-à-dire karem, toute la journée. 362 jours sur 365, mis à part Eid Bakrine, elle fait karem. Et le soir, arrivée chez elle, cette personne, elle ne s'approche pas de sa femme. Comment elle fait donc? Elle fait tahajjud toute la nuit. Elle fait tahajjud toute la nuit. Que pensez-vous de cette personne? What do you think about this person? C'est quoi? C'est remarquable? Hein? Qu'est-ce que je m'aurais fait? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est admirable? Est-ce que c'est un grand bouzrouk? Est-ce que cette personne réincarne la piété? Je vous dirais non. Même s'il a un barbe plus grand que moi, ça arrive. Ben Laden par exemple. Même si, je plaisante, hein. Même si cette personne n'existe pas. Même si cette personne, vraiment quand on regarde cette personne, il n'y a que ibadat. Je vous donne la garantie que ce n'est pas l'exemple à suivre. Vous connaissez cette histoire, on répète. Trois jeunes sahaba étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des personnes qui se dépassaient mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions, un peu comme vous, un peu plus que vous plutôt. Il y a un qui a dit, je ne me marierai jamais. Toute ma vie, c'est pour Allah. Dur, dur. Choquant, comment faire? Il n'est pas fin. Il n'a pas dit 25 ans, mais marié. Jamais. Toute ma vie dans l'ibadat. L'autre a dit, jamais plus, je vais dormir le soir. Toute la nuit, tahajjud jusqu'à je meurs. L'autre a dit, je ne mange plus jamais. Ça aussi, c'est dur. Toute l'année, je vais faire carême. Il voulait s'approcher d'Allah. Se rapprocher d'Allah. Alors, le prophète sallam a entendu la conversation. Répétez, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, vous pensez qu'il allait les féliciter? Bravo, vous êtes les gens les plus pieux de ma communauté. Non. Le prophète sallam s'est mis très en colère. Le prophète sallam a dit, je suis le plus pieux parmi vous. Et c'est uniquement le prophète sallam qui a le droit de dire ça. Et pourtant, je suis marié. Et pourtant, le soir, je fais tahajjud, mais je dors aussi. Je suis le plus pieux et pourtant, il y a des jours où je jeûne, je fais carême, et il y a des jours où je ne jeûne pas. Et là, le prophète m'a dit, ce que vous entendez dans le khutbah, « Faman rariba an sunnati » Quoi? Vous entendez ça tout le temps dans le khutbah. « Falaysa minni » Entends pas? Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Vous comprenez à travers ces remontrances, le prophète m'a dit qu'il était très en colère, le prophète m'a dit, très fâché, que celui qui n'a pas une modération dans sa pratique également, qui ne donne pas un temps pour sa famille aussi, et pour son propre corps aussi, ben cette personne n'a pas suivi la sunnah comme il le faut. Ben une fois, une femme qui a été voir le prophète me dit, voilà, mon mari ne donne plus aucune importance à son aspect physique. Et là, c'est avec Hazrat Omar. Hazrat Omar dit, cette personne n'était pas propre, des grands cheveux, grandes moustaches, des grands ongles. Elle regarde un peu ma main là, ne monte pas le doigt, un peu comme ça. Et, mais je l'aime mon classe, hein, j'ai le droit de le faire. Et donc, Omar a dit à cette personne, va prendre un bain, coupe tes ongles, raccourcis tes cheveux, raccourcis ta moustache, c'est-à-dire fais-toi beau. Et là, la femme, elle revient, et elle retrouve cet homme qu'elle ne reconnaît pas. Et là, Omar fait ishara, attrape sa main. Cet homme attrape la main de sa femme, et sa femme n'a pas reconnu. Elle dit, astaghfirullah, tu oses faire ça devant Amir al-Mu'minin? Si on traduisant en créalité, on l'a bloqué, quoi. Devant Hazrat Omar, on fait ça. Et ensuite, elle a reconnu que c'était son mari. Et là, elle était satisfaite. Vous voyez que même prendre soin de son corps, garde la barbe, d'accord, mon frère. Mais si on a un, que la barbe plus en deux parties, si on a un côté, elle est comme ça, et un côté, elle est comme ça, comment il travaille? Comment il est marié? Modération dans chaque chose. Je suis persuadé que beaucoup parmi vous ne savait pas que la religion était aussi accessible. J'ai discuté avec certains jeunes qui, comme Oli Baga disait ce matin, ne venaient jamais à la masjid en dehors du mois de Ramadan. Et là, ils se sont rendus compte que masjid, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un couvent, ce n'est pas un endroit réservé aux gens pieux, grande barbe, que kafni bonnet toute la journée. Que dans la masjid n'est pas un endroit contraignant. Beaucoup de gens pensent, je suis sûr, que pour être un vrai musulman, il faut vivre soit dans un masjid, soit dans Darul Uloum, dans une madrasa où on apprend à devenir un alim. Mais là, vous voyez que même les sahaba, ils prenaient du temps pour se décontracter. Et là, je citerai Abu Darda, qui disait que, à certains moments, je me distrais avec certaines choses, donc autorisées, des loisirs. Li yakuna, a'wana laha ala al-haq. Afin que, lorsque je vais faire les bonnes actions, ben, je suis plus frais physiquement, en guillemets. Se détendre pour avoir plus de force pour faire les ibadat. Ali radiallahu anhu disait également, innal quluba tamallu kama tamallul abdan. Que le cœur se lasse, comme le corps se lasse. Quand vous avez joué un match d'une heure de temps et demie, deux heures de temps, je ne sais pas moi, un effort physique ultra contraignant. À la fin, vous avez mal. Vous avez des courbatures. Le cœur également ne peut être attentif 4 temps, 5 temps d'affilée. Hazrat Ali disait donc, Rawihul Quloub, Sa'a, Ba'da Sa'a. Détendez-vous, déstressez-vous, faites autre chose de temps en temps. Fa'inna al-qalba, ida ukriha, amiya. lorsque le cœur est oppressé, il devient aveugle. Si on fait trop ibadah sur ibadah, à un moment donné, je ne dis pas que le coco est bloqué, mais à un moment donné, on ne comprend plus, on ne discerne plus les choses. Fais l'ibadah, mais se détendre quand c'est l'heure de se détendre. Et à l'école, il y a une pause. En 10h, 10h15 ou 10h30 selon les établissements, il y a une pause. Dans, vous ne travaillez pas à l'école toute l'année, il y a des petites vacances, il y a des micro-coupures. L'objectif, c'est de se reposer pour mieux travailler. Alors, vous avez compris que se détendre, c'est une longue introduction, fait partie du juste équilibre, la répartition du temps qu'il faut dans l'islam. Maintenant, il y a trois catégories de loisirs. Et là, on arrive aux choses sérieuses. C'est là, comme tu dis. Il y a trois catégories de loisirs. Il y a les loisirs qui se pratiquent à l'extérieur. Football, rugby, je ne sais pas moi, les sports extérieurs de manière générale. Paintball, possible aussi. Ensuite, il y a des loisirs d'intérieur. PSP, jeux vidéo, surfer sur Internet, MSN. Tant que il n'y a pas d'autres péchés qui se greffent à cela, MSN, comprenez avec qui vous MSNez, par exemple, tant qu'il n'y a pas d'autres péchés qui se greffent à ça, ben, il n'y a aucun problème. Ça fait partie de la détente qui est nécessaire pour que le cœur voit autre chose et pour avoir plus d'énergie pour travailler. Je vous dis clairement, quand je travaille trop le soir pour préparer un programme ou quelque chose, de temps en temps, je fais une coupure. Je vais sur Internet, je regarde quelque chose qui me plaît. Maintenant, je vais sur YouTube, je retape OM1093, je regarde le but Basile Boli. Je tape France-Brésil 98. Ça, c'est les hommes préhistoriques, ça, il n'y en aura plus jamais comme ça. Je regarde les deux buts Zidane et le but d'Emmanuel Petit, par exemple. Vous voyez, je regarde quand Paris perdait contre Marseille. J'étais extrêmement content. Vous n'avez pas connu ça? Quand Dimeco tacle Ginola. Ça, c'est de la génération. Bagat, il connaît. Quand Dimeco tacle Ginola, il fait vol. Je vais t'énoncer, retombe. Ça, il veut dire Allahu Akbar, t'es content. Ouais! Mais t'en fous, nous, Marseille, il n'y avait pas grave. Mais il faut que dans le choc, il faut que Paris perde. Il fallait que le sang coule. Allah nous pardonne. On était sanguinaires. C'était l'objectif. Que Paris perde. Même si on ne gagne pas, c'est pareil. Hein? Quoi? À soi? C'est vrai à soi, ça? Eh, dis, le bus vient vite, hein? Donc, vous avez compris. Il y a les loisirs, donc, d'intérieur. Ensuite, moi, les bagages, j'ai Amine. Assoir dans la 5e pour le PSG. Amine. Eh, jouer au stade Vélodrome ou Parc des Princes? Oula, les chauds, les gars. Ah. Ensuite, il y a une troisième catégorie de loisirs qui se fait là aussi à l'intérieur. Mais très à l'intérieur. Très dedans, dedans. Un petit peu en bas même. Parfois sous sol. Et dans ce genre de loisirs, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Il fait noir. On peut s'amuser dans le noir. Il fait noir. De temps en temps, il y a un petit flash. Il y a des faisceaux lumineux, pardon. Il y a des jets de lumière. Et dans ces endroits, le bruit de fond, ce n'est pas que Khalid Saïd Abdou. Ce n'est pas que Zakaria Saïd. Respect les gars Saint-Pierre, respect. Dans ce genre d'endroit, on ne boit pas que de l'eau zamzam. Et dans ce genre d'endroit, on ne croise pas que des moulissas avec des gros ventres. On ne croise pas que des afas en parda ou des filles ou des femmes en châle. Vous avez compris? Ce genre d'amusement, ce genre d'endroit, this is the big problem. C'est la réelle problématique. Ça rend zinzin quand on va aux Zaza. Mais avant même d'arriver au problème de ce genre de lieu, si je vous disais en 10 minutes, si on parlait uniquement de la musique, qu'est-ce que vous pensez de la musique? C'est grave, c'est pas grave? Is it a big problem? Vous allez dire que it is not so big that we have seen yesterday. Hein? Vous allez dire que, écoutez, Moïssa, modérez-vous. On a parlé du zina. On a parlé de l'alcool, de la drogue, du zamal, tu fais mal le cœur. On a parlé de ça. Ça, c'est grave, Moïssa. Mais la musique, mettez la feuille d'autres oreilles, écoutez un instant. Après, il vient à la mosquée, moi, il n'y a pas de problème, il ne faut pas aller trop loin. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, pensent que la musique n'est pas le problème. Il y a d'autres choses plus graves. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Détrompez-vous. Je vous ai dit tout à l'heure que Shaitan vous attend au coin de la prochaine intersection et il ne vous loupera pas. Shaitan est très doué. Shaitan est extrêmement subtil dans le choix des armes. Et cette arme-là, la musique, c'est de loin, de loin, de loin, l'arme la plus efficace. C'est pas évident d'amener un jeune musulman en boîte directe. C'est pas évident de convaincre un jeune de boire en un jour, ou du jour au lendemain de le convaincre à faire zina. Ça peut arriver, mais cela nécessite beaucoup de facteurs. Mais la musique, c'est quelque chose qu'on entend. Moi-même, je connais beaucoup de musique maintenant, par rapport aux matchs de football. Dans la mi-temps, en une fraction de seconde, on entend le temps de changer de chaîne, et puis ben, on retient. Et ça reste dans l'esprit. Et c'est un gros problème, parce que le cerveau l'enregistre. Et quand vous allez au supermarché ou ailleurs, vous entendez les passages, vous vous rendez compte que vous connaissez les morceaux par cœur. Vous savez, bombastique, tout ça je connais maintenant. Fantastique, tout ça. Ça, c'est 5 secondes avant de zapper à la mi-temps d'un match. Et vous pensez que c'est sans conséquence, mais c'est quelques secondes, le cerveau l'enregistre et l'effet est immédiat sur le cœur. Pourquoi c'est une arme extrêmement efficace? Parce qu'on va aller un peu plus vite. Hein? Parce que la musique, elle est destinée à toutes les générations. Quand on est jeune ou quand on est vieux, ben, il y a la musique classique, alors les styles 70 ou autre chose. Et quand on est jeune, il y a là une panel interminable de styles de musique. Donc, elle est accessible à toutes les générations, contrairement aux zina et à la drogue. Je ne pense pas qu'il y a un tcha-tcha qui sera dans le coin, le couloir en bas avec Sosama, appuyé comme ça avec les feux. Les feux là, ils bouchent le peu d'artère qui reste débouché. C'est fini. La drogue, c'est pour les jeunes. Enfin, c'est pas pour les jeunes, mais c'est plutôt accessible aux jeunes. On a les bronches costauds. Le zina, ben, il faut peu de force, Red Bull et tout. Sinon, il faut prendre 5 canettes de Red Bull pour le zina quand on est un peu âgé. C'est un péché plus axé pour les jeunes générations. Mais la musique, c'est pour toutes les générations. Également, la musique ne nécessite pas de moyens financiers. Contrairement à l'alcool, un degré moindre, et à la drogue. Question. Combien coûte un rouleau, Zaman? Combien? Moufia, combien? 20? Hein? Combien? 5 euros. Ma paye 20 euros. Hein? En général, c'est à peu près ça, toi, le taux de 20 euros. Bon, peut-être que d'une récession économique, le prix Zaman augmente aussi. Donc, pour s'acheter, pour qu'un jeune s'achète un rouleau, ou un petit cachet bleu ou rouge, c'est-à-dire les Smarties, vous comprenez, ben, il faut de l'argent. Mais la musique, c'est gratuit. Vous téléchargez sur Internet. Internet, oui, ou c'est la médiathèque qui n'a pas les bons plans. Ou à bonne médiathèque, mon frère, on a une heure de temps par semaine. Si Saint-Pierre n'a pas bien saint denis. Une heure de temps par semaine, ou gagne. Donc, la musique est accessible gratuitement. Contrairement à la drogue et à l'alcool qui nécessitent un certain moyen. Également, la musique ne retient pas, elle ne nécessite pas un lieu spécial. Le zina, il faut un endroit pour le faire. Fumer du zamal ou boire de l'alcool, vous ne pouvez pas le faire en pleine rue des bons enfants ou en pleine rue Maréchal Leclerc ou Juliette Dedieu. Il faut un parking, il faut un endroit où on ne vous voit pas. Mais la musique, vous branchez votre écouteur, hein, vous savez que quelqu'un écoute Kali Saïd Abdou, mais vous écoutez Kali, je ne sais même pas le nom des chanteurs, d'accord? Vous écoutez, je connais une seule là, sa dame qui fait rap, comment elle s'appelle? Diams. Je suis en train de travailler sur une chanson de Diams. Ma France, comment appelle ça? Ma France à moi. D'accord? Je suis en train de retravailler ça en mettant des connotations islamiques. Mon islam à moi, ça, ok? Quand ce sera prêt, je vais vendre les CD. Taïf. Et cette arme qui est la musique, elle a su s'adapter au progrès. Avant, c'était les grands disques, là, vous n'avez pas connu. Ensuite, c'était les cassettes. Après, il y a eu les CD. Maintenant, c'est les lecteurs MP3. Maintenant, il y a les iPods. Maintenant, c'est dans la GSM, même dans la poche, on ne sait même pas. Donc, c'est un péché qui a su s'adapter avec les moyens nouveaux. Et le plus grave, c'est que ce péché s'est généralisé. Et qu'on ne ressent pas de sentiment de culpabilité en écoutant la musique. Et je parlais avec un jeune tout à l'heure, qui, en plus d'écouter la musique, à ces moments perdus, il est DJ. Disque jockey. Et je lui ai posé la question. Est-ce que tu as déjà fait tel péché? Il était parmi nous, là, il va venir d'un instant. Et il a dit que oui, j'ai déjà fait. Il m'a dit, d'accord.